C'est le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Allemagne qui reconfine ou presque les non-vaccinés. Trop de contaminations, trop d'hospitalisations, la situation est dramatique, dit Angela Merkel. Le pays revient aux restrictions sévères, détail dans un instant, alors que l'Autriche repasse au confinement généralisé dans ses deux régions les plus touchées. Retournement de situation chez Ascoval, dans le Nord. Sa production d'acier ne partira pas en Allemagne, finalement. Bercy a mis la pression. Dans ce journal aussi, Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France. Jusqu'à lundi, la tournée n'est pas anodine, à 5 mois de la présidentielle. Et puis, avec vous, tout à l'heure, Nicolas, la question animale dans le grand entretien.
Oui, notre invité ce matin est l'anthropologue Charles Stepanov. Il publie « L'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage ». C'est aux éditions de La Découverte. On va parler donc de la chasse. Appelez-nous, 01 45 24 7000.
Pourquoi les toilettes sont-elles toujours plus difficiles d'accès pour les femmes que pour les hommes? Question dans ce journal en cette journée mondiale des toilettes. Et puis, c'est parti pour la saison de ski. Val Thorens, c'est la première station à rouvrir son domaine demain après l'année blanche de l'an dernier.
France Inter.
En France, nous en sommes à la 5e. Les Allemands ont une vague de moins, mais leur 4e dépasse toutes les précédentes en termes de contamination. 65 000 hier. Le pays va donc repasser massivement au télétravail et quasiment reconfiner les non-vaccinés. Leur vie sociale, en tout cas, sera drastiquement réduite. Et ce n'est que le premier étage des restrictions prévues. Voilà ce qu'ont décidé les chefs de gouvernement régionaux avec Angela Merkel hier soir au cours d'une réunion de crise, Ludovic Piétenu.
Les Allemands vont avoir les yeux arriver sur l'indice d'hospitalisation qui va rythmer leur vie désormais. Premier niveau à 3, 3 hospitalisations pour 100 000 habitants sur une semaine. Cela vaut déjà dans 12 régions sur 16. L'accès aux bars, aux restaurants, à d'autres lieux n'est plus autorisé aux non-vaccinés. À partir d'un indice de 6, les personnes vaccinées comme celles guéries du Covid doivent aussi faire un test chaque jour si elles veulent rentrer dans l'un de ces lieux. À partir de 9, cela veut dire un système de santé surchargé. Indice déjà dépassé dans 2 régions et bientôt 3, chaque Länder peut prendre les décisions de son choix comme la fermeture des commerces. C'était une nécessité, dit la chancelière sortante Angela Merkel.
La situation est extrêmement dramatique et il est maintenant très important d'agir rapidement, de manière cohérente, de mieux contrôler aussi. Il nous faut pouvoir stopper cette dynamique ou du moins la réduire. Au rythme actuel, nous nous dirigeons vers une situation très très difficile, en particulier pour toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux ou dans les services de soins intensifs.
Et pour protéger les patients, le gouvernement devrait dire bientôt s'il rend obligatoire la vaccination pour les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite. Ce serait un changement considérable en Allemagne. Berlin, Ludovic Piétenu, France Inter.
Même motif, même punition en République tchèque. Hausse des cas inédits depuis le début de la pandémie et plus de bars, de restaurants et de rassemblements pour les non vaccinés. Alors qu'en Autriche, ça n'est plus suffisant. Le pays va donc repasser au confinement général dans ses deux régions les plus touchées à partir de lundi pour 3 à 4 semaines. Ce sera le premier confinement en Europe depuis le printemps dernier.
Il est 8h04 dans le Nord, c'est la bonne nouvelle de la nuit pour les salariés d'Ascoval.
Et oui, leur usine de Saint-Saulve ne verra pas partir une partie de sa production d'acier en Allemagne. C'est ce que souhaitait la direction à cause de la hausse du prix de l'électricité. Produire moins cher en Allemagne avec du charbon. L'annonce a fait scandale après la COP26 et l'ambition présidentielle de réindustrialiser la France. Le propriétaire allemand de l'usine du Nord a donc été convoqué à Bercy hier soir. Et bonjour Maxime Debs, eh bien il a changé d'avis.
Ouais, revirement, peu avant minuit hier soir, si on voulait faire un jeu de mots lié à l'acier, on dirait que Bercy a gagné son bras de fer. Le gouvernement, en première ligne depuis des mois, des années sur ce dossier à Ascoval, l'usine de Saint-Saulve devenue une usine modèle, émettrice de moins de CO2 avec son four électrique. Il était inconcevable pour l'État, qui plus est, 5 mois avant la présidentielle, de laisser partir la production, encore moins pour produire de l'acier avec du charbon au lendemain de la COP26. Vous l'avez dit, ça aurait fait mauvais genre, d'où cette montée au créneau. Lui, en tout cas, fait partie des satisfaits ce matin, Nassim Bardi de la CGT Ascoval.
C'est une bonne nouvelle, ça montre quand on veut, on peut. Ça veut dire que l'État
a pu trouver une solution alternative.
Alors justement, reste à savoir si Sarchtal a obtenu des contreparties en échange de cette décision.
C'est toute la question, on peut tout imaginer. Peut-être un accord a-t-il été trouvé pour compenser le manque à gagner des Allemands en termes de coût d'électricité qui a triplé en quelques mois sur le site de Saint-Solve. Et quand on parle d'une aciérie, Florence, vous pensez bien, c'est loin d'être une petite facture. Peut-être aussi que la SNCF, gros client d'Ascoval, qui achète ses rails plus verts en France et qui en fait sa communication, va payer plus cher ses rails. C'est l'une des pistes qu'avançaient hier soir les syndicats. Quand vous achetez bio, c'est moins cher pour des rails décarbonés. S'ils coûtent plus cher à produire, c'est normal que le client y mette le prix, disait hier soir un délégué syndical. En tout cas, pour les partenaires sociaux, si accord a été trouvé, c'est que tout le monde y trouve son compte. Plus de précisions sur cet accord sont attendues dans la journée.
Merci Maxime Debs. 10% d'augmentation, ça c'est ce que proposent les organisations patronales de l'hôtellerie-restauration aux salariés du secteur. Des négociations qui commencent mal pour les syndicats, car 10%, c'est une moyenne ramenée à moins de 4% pour les salariés du bas de l'échelle. La CGT réclame 25% d'augmentation du délire, selon les organisations patronales.
Il est 8h06, 4 jours dans les Hauts-de-France.
Et oui, Emmanuel Macron fait ses valises et part en tournée, attendu aujourd'hui dans le Nord et dans l'Aisne, au chevet d'un territoire en grande difficulté. Il passera ensuite le week-end dans sa maison du Touquet, avant Amiens, lundi, sa ville natale. Week-end prolongé, loin de la capitale, pour tenter une nouvelle fois, Simon le Baron, de casser son image de président des villes et des élites.
C'est le péché originel du macronisme. Un président sans ancrage local et qui l'aura payé tout au long de son mandat, de la crise des gilets jaunes à sa relation jamais apaisée avec les maires. Ni le grand débat, ni ses innombrables visites en région n'auront vraiment arrangé les choses. En témoignent les ratages des municipales et des régionales. En venant promouvoir aujourd'hui le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache, plusieurs dizaines de millions d'euros consacrés au développement de ce territoire sinistré, avec de nouvelles aides à la clé. C'est à la France périphérique qu'il vient parler. Cette France éloignée des métropoles, touchée par la désindustrialisation et qui oscille toujours, 3 ans après les premiers rassemblements sur les ronds-points, entre abstention et vote extrême. Une France à laquelle le chef de l'État, plus que jamais, doit prouver que lui aussi est de quelque part. Jacques Chirac et François Hollande avaient la Corrèze, Mitterrand la Nièvre, Giscard le Puy-de-Dôme. Pour Emmanuel Macron, c'est la Somme. Amiens, il y sera lundi, la terre de son enfance, à défaut de terre électorale, pour proclamer son amour de ce qu'il est désormais convenu d'appeler les territoires.
Simon le Baron, le président qui a appelé son homologue polonais hier, qui fait tout pour fermer sa frontière aux migrants massés en Biélorussie. Emmanuel Macron l'a assuré de sa pleine solidarité. Sur place, des centaines de migrants ont enfin été mis à l'abri dans un hangar par les autorités biélorusses, alors que plus de 400 autres ont été rapatriés en Irak hier soir. C'est un pays rongé par la dette, l'inflation et les inégalités. Nous partons pour le Chili maintenant, qui vote dimanche pour élire le successeur du conservateur Sebastián Piñera. 2 ans après un soulèvement social, partie de l'augmentation du prix du ticket de métro. Les Chiliens choisiront-ils l'extrême droite ou bien la gauche, représentée par un jeune candidat, Gabriel Boric, 35 ans, ancien leader étudiant, en campagne hier dans un faubourg de Santiago. Reportage signé Olivier Pujada.
Il y a 10 ans tout juste, Gabriel Boric sonnait l'une des 3 révoltes étudiantes qui amènent aujourd'hui le Chili à s'interroger sur ses politiques sociales.
Nous sommes nés des mobilisations et nous luttons pour changer les choses. Pas contre un modèle, mais pour un système plus juste.
Le voilà désormais candidat à la présidence. 35 ans, l'avant-bras tatoué, le poing levé, la barbe taillée. Plusieurs milliers d'habitants de cette commune défavorisée sont aujourd'hui contraints de passer par la soupe populaire chaque jour. La pandémie n'a rien arrangé et la seule solution jusqu'ici, c'est l'entraide. Javiera Reyes a été élu maire il y a 4 mois.
C'est un secteur abandonné, complètement délaissé par l'État. Un quartier qui a mauvaise réputation, à cause notamment du trafic de drogue.
Pour elle, l'homme de la situation ne peut être que Gabriel Boric, candidat d'une coalition de gauche menacée dans les sondages par José Antonio Kast, porté de son côté par les partisans d'extrême droite.
C'est partout pareil. En France, vous l'avez vécu avec Marine Le Pen. On doit lutter contre ça avec détermination et conviction.
Sur le terrain, dans les quartiers, Boric y travaille, sans pour autant déclencher de ferveur populaire.
Olivier Poujade à Santiago du Chili, plus à l'est le Brésil, et la déforestation en Amazonie, elle a encore augmenté de plus de 20% depuis un an, un record sur les 15 dernières années. Le gouvernement de Jair Bolsonaro, après l'avoir encouragé, promet désormais d'être plus ferme face aux délits environnementaux. Vous le savez, à chaque journée, sa grande cause mondiale, celle d'aujourd'hui, pourrait paraître prosaïque puisque c'est la journée mondiale des toilettes. Ce serait oublier que l'accès aux sanitaires est si difficile dans bien d'endroits, dans bien des endroits du monde. Ça n'est pas le cas en France où pourtant se pose la question suivante. Selon que l'on est un homme ou une femme, pourquoi la fréquentation des lieux d'aisance publique n'est pas si évidente pour la moitié d'entre nous, Yann Gallic?
Les femmes éprouvent plus de peur et de gêne que les hommes pour aller aux toilettes, notamment dans l'espace public, selon une récente enquête de l'IFOP. Cette anxiété est encore plus marquée chez les moins de 30 ans, comme Hélène et Lorena, toutes les deux étudiantes en école de commerce.
C'est beaucoup plus compliqué quand on est une femme, parce qu'on a besoin déjà de plus de temps aussi dans les toilettes, le fait de, on doit se déshabiller entièrement, alors qu'un garçon, pas forcément.
Ils ont moins de pudeur aussi.
Et oui, ils ont moins de pudeur. Nous, c'est vrai que les filles, on est souvent plus pudiques là-dessus. Ça m'est déjà arrivé de devoir me retenir jusqu'à arriver chez moi, parce que c'est vrai que je me permettrais pas de le faire à l'extérieur ou même d'essayer de trouver des toilettes dehors, parce que c'est vraiment pas hygiénique du tout.
Dans les salles de concert, sur les aires d'autoroute ou dans les gares, les files d'attente sont généralement beaucoup plus longues devant les WC pour femmes. L'accès à des sanitaires adaptés, propres et sécurisés reste encore trop limité, regrette l'architecte Apolline Vranken.
Aujourd'hui, la plupart de nos bâtiments et de nos espaces publics, ils sont encore conçus par des hommes, pour des hommes qui ne prennent pas spécialement compte de ces besoins spécifiques. Il y a une petite phrase comme ça, assez connue, que j'aime bien, qui dit « Pour regarder l'avancée de l'égalité homme-femme dans nos villes, regardez la file des toilettes », et c'est vrai.
Selon Apolline Vranken, il est temps de construire un espace public plus égalitaire. Les solutions existent, dit-elle, c'est désormais une question de moyens et de volonté politique.
Yann Gallic, il trépigne depuis mars 2020. Les amoureux du ski, réduits à la raclette, sans les slaloms sur la neige, vont pouvoir rechausser cet hiver. Et dès demain à Val Thorens, qui fait déjà le plein, Philippe Lefebvre.
Difficile pour ne pas dire impossible de trouver une chambre ou un appartement dans la station qui ouvrira samedi 35% de son domaine skiable. Une situation qui réjouit les hôteliers comme Émilie Pagevic, la directrice de l'hôtel Altapura.
Nous ouvrons demain matin avec un hôtel complet. Nous avons énormément de demandes de réservation et on sent qu'il y a un gros engouement pour venir au ski.
Et pour l'ensemble de la saison, les réservations sont d'ores et déjà en hausse de 35% par rapport à la saison 2018-2019. De quoi redonner le moral à une profession durement touchée par la crise du Covid. L'hiver dernier, il n'y avait quasiment personne dans les rues de la station et les pertes s'accumulaient, se souvient Vincent Lalanne, le directeur de l'Office du Tourisme.
Ça a été une perte sèche énorme qui se situe autour du milliard d'euros.
Reste une incertitude quant à l'évolution sanitaire, mais ici tout est fin prêt. Les secouristes ont reçu des kits Covid pour se protéger les skieurs blessés. Et dans la station, des moyens impressionnants ont été mis en œuvre.
On se prépare à tous les scénarios. Ça veut dire concrètement qu'on aura des laboratoires de tests PCR, qu'on a des tests antigéniques, qu'on a mis en place un système avec des masques et des tours de cou anti-Covid, qu'on sera capable également de vacciner des gens dans la station.
Et ici, à quelques heures de l'ouverture, c'est le sourire que l'on voit sur tous les visages.
Philippe Lefebvre, la Chine va-t-elle être sortie du circuit professionnel de tennis? C'est la menace du patron de la WTA face à la disparition de la joueuse Peng Shuai depuis qu'elle a accusé début novembre un ancien haut responsable du régime communiste de viol. Au foot, Ligue des Champions dames, le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale en battant le Real Madrid 2-0 hier soir et malgré l'affaire de l'agression de Kerem Raoui qui pèse sur le moral du club. Enfin demain, le grand jour pour le rugby français à 2 ans de la Coupe du Monde en France, c'est la répétition générale, le 15 de France accueille les Néo-Zélandais au Stade de France. Le match affiche complet depuis de longs mois. 80 000 spectateurs attendus pour soutenir les Bleus, mais pas seulement, car voir les All Blacks, Fanny Lechevestrier, c'est toujours un événement.
Les All Blacks, emblème immuable de la Nouvelle-Zélande à travers le monde, avec ses joueurs tout de noir vêtus depuis plus d'un siècle, portant le deuil de leurs adversaires, hypnotisant forcément le regard du tricolore Roman Tamak.
C'est vrai que les All Blacks, ça inspire tout le monde. Elle a ce fameux maillot noir qui fait rêver tout le monde.
Un maillot connu bien au-delà des frontières du rugby. C'est la force de cette équipe aussi renommée dans le monde, selon différentes études marketing, que des clubs de foot comme le Barça ou Manchester. Ajouter un peu de mystique symbolisé par le fameux AK qui électrise toute personne présente dans un stade à ce moment-là. Un rituel unique auquel même les adversaires doivent encore se préparer, nous dit Thibaut Flamand, qui va vivre demain avec les Bleus son tout premier AK.
J'ai échangé un petit peu avec le staff là-dessus. Forcément, c'est un moment très spécial. Ce que j'en ai tiré, c'est qu'il faut profiter de ce moment qui reste assez unique. Donc voilà, mais s'en servir pour se motiver et rentrer correctement dans le match.
Mais les All Blacks, c'est aussi une légende que les joueurs entretiennent, faisant de leur venue en Europe tous les deux ans un événement exceptionnel pour pérenniser tout autant une tradition qu'une économie lucrative.
Fanny Lechevestrier, enfin, c'est un acteur caché mais indispensable dans une matinale radio. Le rédacteur en chef Patrice Louis était rédacteur en chef de la matinale d'Inter de 1989 à 1996. Souvenez-vous, époque Courchel, Passerelle, Decan. Il a marqué son temps et marqué la rédaction de France Inter. Il était installé à Illiers-Combray, fou de mots et de Proust. Il est mort hier d'un cancer à l'âge de 74 ans et nous pensons bien évidemment tous à sa famille.
Merci beaucoup Florence Paracuelos. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Bleu-Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Stéphanie, la journée est calme, mais coupée en deux.
Mais coupée en deux parce que le ciel hésite, figurez-vous, entre le soleil et la grisaille. Il installe donc le soleil pour la journée sur tous les sommets, Alpes, Jura, Vosges, Massif central et Pyrénées, offrant aux personnes qui ont la chance quand même de s'y promener sur ces sommets de belles mers de nuages. Le soleil est aussi présent sur tout le pourtour méditerranéen dès ce matin. En remontant vers le nord, le soleil commence à être grignoté par la grisaille, des plaines du sud-ouest vers le Poitou, le sud de la Bretagne, sur le centre Val de Loire et l'Auvergne. La matinée se déroule sous une bonne couche de nuages bas et de brouillard qui se morcelleront difficilement au profit du soleil. Et puis en revanche, la grisaille gagne la partie des côtes de la Manche à la région parisienne jusqu'au nord, nord-est, voire jusqu'au Lyonnais. Ce ciel bien encombré offrira en prime quelques gouttes au nord de la Seine ce matin, mais quelques discrètes éclaircies cet après-midi.
Et sous la grisaille, le réveil est frais.
Un petit peu, il fait 1 à 6 degrés en général au nord de la Loire. Quelques gelées matinales sont possibles aussi dans l'Est et le Massif central. Le réveil est un petit peu plus doux près de la Méditerranée, 5 à 11 degrés. Et puis cet après-midi, les températures vont stagner autour des moyennes de saison, 9 à 13 degrés en général. Il fera 8 degrés à Strasbourg et Dijon, 9 à Lyon, 12 à Nantes et Paris, 13 degrés à Lille, Caen, Brest, Limoges ou Toulouse, 18 degrés quand même à Marseille et encore 20 degrés à Ajaccio.
Merci, ça fait rêver. Oui, ça fait rêver. Merci Stéphanie Fromentin. France Inter, 8h17, c'est Géopolitique. Pierre Aski.